Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin pour la dernière séance de nos rencontres estivales. Aujourd'hui, nous accueillons Ange, l'association Ange, qui est représentée par Jean-Marc Adou et il y a quelques autres plongeurs, dans la salle, qui sont avec nous sous les chaînes. Donc l'association Ange, elle n'est pas très connue, mais elle fait un super boulot. Ange, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, donc je vais vous le dire. C'est un acronyme, hein, c'est rien d'autre qu'un acronyme, même s'il est fort sympathique. C'est l'association Nord-Gascogne Épave Subaquatique. Hein, voilà. Et donc, c'est une association de plongée, pas que de plongée sportive. C'est une association qui s'est spécialisée dans la recherche, la découverte et dans la transmission de cette passion pour les épaves. Alors, Jean-Marc, est-ce que tu peux nous dire quelles sont vos activités ? En quoi ça consiste ?
Alors, l'activité de Ange, c'est de découvrir et de faire découvrir aux gens le patrimoine sous-marin qui est autour de nous. En fin de compte, au cours de nos plongées, on va faire des photos, des vidéos, on va découvrir des choses, on va les mettre sur un autre site internet. Vous avez vu qu'on a travaillé, on a fait également deux livres. Un DVD, on a travaillé avec la mairie sur des pancartes et la table d'orientation qui se trouve à la pointe du but. Donc le but, c'est de garder ce patrimoine maritime qui va disparaître dans quelques années, de savoir l'histoire qui s'est déroulée autour de l'île et un peu plus loin des fois. Et c'est tout à fait le but de notre association, c'est de garder ce patrimoine et que tout le monde puisse découvrir ce qu'on nous on fait et ce qui existait et les gens qui ont participé souvent à des Premières Guerres mondiales, Deuxième Guerre mondiale, qui ont fait naufrage autour de l'île.
Alors tiens, justement, puisqu'on parle de guerre mondiale, il y a beaucoup d'épaves, effectivement, qui sont des épaves des deux guerres, hein, en l'occurrence. Est-ce qu'on a des épaves d'autres types de bateaux qui n'ont rien à voir avec la guerre ?
Oui, bien sûr, parce qu'il y a des fortunes de mer dues à des tempêtes. Il y a eu des navires qui ont fait un naufrage, on ne sait pas trop pourquoi. Il n'y a eu donc pas que des bateaux. On a des barges, des pontons grues. Il y a une drague qui s'appelle l'Asie, qui se trouve au large, qui était de Bordeaux et qui convoyait vers Saint-Nazaire, je crois, et qui a fait naufrage un jour de tempête. Mais bon, c'est principalement effectivement des épaves de guerre et dues à la tempête, hein, généralement.
Et du coup, il n'y a pas du tout des bateaux de pêche, parce que des fortunes de mer, on sait bien qu'il y en a eu, malheureusement, il y a eu plein de tempêtes, etc. Et vous n'en avez pas retrouvé ?
Alors, bateaux de pêche, ce que nous, on connaît, bateaux de pêche en bois de l'île Dieu, il reste pratiquement plus rien de ceux de jadis qui étaient sous la mer. Mais comme on disait, Première Guerre mondiale, on a eu des chalutiers armés qui ne venaient pas forcément de l'île Dieu, comme certaines épaves qu'on rencontre. On sait que c'est des chalutiers parce qu'on va découvrir une chaudière, on va découvrir un treuil et un canon. Donc c'est bien un chalutier parce qu'il avait un treuil pour remorquer son chalut, et il y avait un canon parce qu'ils étaient armés, Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, pour pouvoir protéger les convois qui montaient et descendaient de Bordeaux vers Saint-Nazaire, voire plus haut, quoi.
Et tu nous disais tout à l'heure donc, que vous aviez fait deux livres, le DVD, on va en reparler tout à l'heure, mais concernant ces deux livres, qu'est-ce qui vous a poussé justement à faire ces deux livres et combien de temps ça représentait ? Parce que quand on le feuillette, il y en a peut-être parmi vous qui l'avez ou qui l'ont feuilleté. On voit qu'il y a un boulot énorme derrière. Il y a bien sûr un certain nombre d'épaves qui ont été recensées. Il y en a plus d'une trentaine qui ont été recensées dans le livre. Donc, tu vas nous dire pourquoi vous les avez choisies. Mais en plus de les recenser, vous en racontez l'histoire. Vous mettez carrément des passages d'histoire pour expliquer le contexte de ces naufrages. Et il y a évidemment plein de photos magnifiques de plongée où vous expliquez ce qu'on découvre et toutes les belles choses que l'on peut voir. Donc pourquoi ce livre et combien de temps vous avez mis pour faire pour faire ces deux livres ?
Alors les livres, ça représente environ à peu près deux années de travail parce que Il a fallu effectivement rechercher, bon, un peu les histoires, on les connaissait un peu, mais il a fallu chercher des documents, des photos d'archives de l'époque qu'on a acheté des fois en Angleterre pour avoir des photos du navire à l'époque, etc. Et bon, le but essentiel, effectivement, c'était de laisser une trace de notre travail, de nos plongées. Autre que sur le site internet, mais effectivement, c'est ceux qui ont fait les livres ont passé beaucoup de temps parce que donc il y avait donc toutes les photos comme il y a eu et tous les récits donc toute l'histoire du navire, l'histoire du naufrage et les histoires de plongée qui vont autour de l'épave des fois qui sont un peu anecdotiques.
Et du coup, bah, comment on fait pour retrouver l'histoire des bateaux? Parce que c'est pas tout. D'abord, faut-il qu'il soit identifié déjà pour connaître son histoire? Mais comment on fait une fois qu'un bateau est identifié pour trouver son histoire? Où est-ce qu'on va chercher les informations?
Alors, on connaît pas forcément le nom du bateau. C'est justement, on va commencer peut-être à chercher dans les archives, parce que bon, ça peut être aux archives à Paris ou ailleurs, dans les documents qu'on peut retrouver sur Internet. On peut rencontrer des gens, on a eu des histoires, des gens enfin, qui ont créé le livre, qui ont été se renseigner auprès des gens qui étaient un peu férus des guerres mondiales. Il y a des gens qui sont passionnés des archives de Première et Deuxième Guerre mondiale. Ces gens-là nous ont rapporté des photos ou des choses comme ça, des documents qu'ils avaient chez eux et qui nous ont permis d'avancer sur le livre et de découvrir des histoires qu'on n'avait pas imaginé, quoi. Donc le nom du navire, des fois, on l'a au départ, ou c'est plus l'inverse. Avec les documents qu'on va trouver, on va trouver le nom et après l'histoire du navire ensuite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Internet aussi est une source de connaissances, hein, pas dire inépuisable, mais où on a des renseignements intéressants.
Et du coup, est-ce qu'on a, il y a beaucoup d'épaves, parce que là, vous en avez recensé une trentaine, mais est-ce qu'on a une idée du nombre qu'il pourrait y avoir autour de l'île Dieu, parce qu'on sait qu'il y a des coins dangereux pour la pêche, etc. Mais ces naufrages que vous avez identifiés, c'est pas tellement lié, c'est plutôt lié à la guerre. Est-ce qu'on a une idée de combien il pourrait y en avoir et où est-ce qu'il se trouve? Est-ce qu'il y en a partout autour de l'île Dieu?
Alors, autour de l'île Dieu, c'est vaste. Ça va de nos plongées, nous, aujourd'hui, aujourd'hui, ils vont du plateau de Rochebonne, c'est-à-dire à peu près à une trentaine de milles au sud de l'île Dieu, jusqu'à proche de Wateoédic, c'est-à-dire une trentaine de milles aussi au nord de l'île Dieu, à l'entrée de Saint-Nazaire, du chenal de Saint-Nazaire. Et au large, on est un peu limité plus par la profondeur, mais effectivement, une trentaine, il y en a beaucoup plus que ça, parce que bon, déjà, il y a des épaves qui restent plus grand-chose, il y en a peut-être qu'on ne connaît pas encore. Et des endroits, effectivement, dans les rochers où on ne devinera pas une épave ou qu'on ne sait pas qu'elle existe. Mais effectivement, il y en a certainement beaucoup plus autour de l'île, trop profondes ou qui sont été masquées par un rocher ou qui sont en bois et qui restent plus grand-chose et qu'on trouvera peut-être encore des choses par le hasard des choses, mais c'est de plus en plus compliqué. C'est vrai qu'on a répertorié et inventorié un peu les plus grosses épaves qu'il y a autour de l'île.
D'accord. Et au niveau, alors, pas dire parlons technique, mais à quelle profondeur est-ce que vous trouvez ces épaves? Parce que, bon, il n'y en a pas tellement sur la côte toute proche, mais il y en a peut-être, je ne les connais pas. Mais vous descendez en tous les cas jusqu'à quelle profondeur pour aller les voir?
Alors, la profondeur maximum qu'on est plongé, c'est aux alentours de 80 mètres sur l'Érythréa et le lac Mé. Mais là, c'est avec des mélanges spéciaux. Et sinon, effectivement, ça va du bord de côte. Par exemple, à la plage des Broches, il y a l'Arta, qui est aux grandes marées, à marée basse. On retrouve la Chaudière ou même à la pointe du Butte, on voit des morceaux de certaines épaves qui datent de jadis. Donc, même à pied, on peut, à marée basse, aux grandes marées, on peut voir des restes d'épaves autour de l'île.
Alors, je ne t'ai pas demandé tout à l'heure, mais depuis quand existe l'association, en fait?
Ça existe depuis longtemps, parce que en fin de compte, il y a eu plusieurs des précurseurs qui ont commencé à plonger dans les années 80. Et ensuite, ça s'est structuré autour d'une association qui s'appelait le GREM, qui était à Noirmoutier, qui s'est dissocié entre le GREM et les Anges, qui étaient à Noirmoutier. Et il y a une dizaine d'années, Ange est venu à l'île Dieu par faute de moyens, après à Noirmoutier, on va dire, grosso modo.
D'accord. Donc, On disait tout à l'heure qu'on était quand même sur des profondeurs très diverses et variées. Et moi, il y a quelque chose qui m'a frappée quand j'ai feuilleté vos livres, c'est qu'on voit toujours plein de poissons. Enfin, pas toujours, mais on voit souvent plein de poissons. Est-ce que c'est une généralité ou est-ce qu'il y a des milieux qui sont plus propices ou est-ce que c'est une typologie de bateau qui fait qu'on ait des poissons? Et quel type de poissons, d'ailleurs?
Oui.
Ça, c'est pour les pêcheurs.
Hein. Oui, de toute façon, sur toutes les épaves, oui, c'est des refuges pour les poissons. C'est des endroits où ils peuvent s'abriter et... Toutes les épaves ont plus ou moins une faune, pas dire différente. Nous, on a principalement des congres, des lieux beaucoup, des tacos, etc. Donc ça, c'est les poissons principaux qu'on va voir. Mais il arrive de voir du Saint-Pierre, du bar, etc., des poissons lunes, des choses qu'on ne s'attend pas forcément à voir. Beaucoup de homards, du crabe. Et une chose qu'on revoit depuis quelques années, c'est des langoustes. Qui viennent peupler les épaves, et curieusement, et se plaisent mieux sur certaines épaves que d'autres. Il y a des choses qu'on a remarquées sur des épaves qui étaient peut-être plus dans la vase, on va trouver des galatées. Il y a différentes espèces qui sont plus ou moins selon le milieu. Mais effectivement, pratiquement toutes les épaves ont leur faune qui reste là à l'année en protection dans la tôle.
Bon, et tout ça, ça vous fait de très très belles images, parce que du coup, même quand vous, à la limite, même quand vous plongez, que vous voyez rien, vous voyez des poissons, vous voyez des beaux paysages sous-marins. Et du reste, vous avez, je pense que tous les plongeurs de l'association, là, vous avez dû emmagasiner pas mal de beaux souvenirs. Et je t'ai demandé l'autre jour, quelle épave était pour toi la plus belle, celle qui avait le plus de, qui était la plus émouvante, oui, et la plus belle aussi. Et tu m'as parlé de l'Afrique. Tu peux nous en parler de l'Afrique?
Alors l'Afrique, c'est une, enfin pour moi, effectivement, j'ai eu l'occasion de plonger un peu partout en Atlantique, et pour moi, c'est l'épave la plus belle de l'Atlantique, parce que c'est une épave qui est déjà très grande, qui est régulièrement, il y a beaucoup de visibilité, il y a une faune énorme. On voit toutes sortes de poissons et tout est... Et bon, en plus, elle est un petit peu particulière parce qu'en général, sur un petit bas navire, on va trouver une chaudière. Sur les plus gros, on va en trouver deux. Et sur l'Afrique, il y en a six. Et deux belles machines qui sont encore restées plantées debout. Donc déjà, de par la structure. Et l'avant du navire est encore pratiquement entier. Et une bonne partie de l'arrière également. Donc c'est déjà une épave qui date de 1920. En plus... Alors, à côté de ça, il y a une histoire qui est assez incroyable du naufrage. Donc, c'est toujours un moment particulier pour y aller. Bon, elle est un peu loin. Elle se mérite. Il faut qu'il fasse très beau. Ça présente une journée pour une plongée de 15 à 20 minutes. Donc, ça se mérite. Tu veux que je parle de l'histoire de l'Afrique?
Oui, je veux bien que tu nous dises un petit mot. Je veux bien que tu nous dises un petit mot, pardon, j'avais oublié mon micro. Parce que l'Afrique, bah, en fait, il y a eu le centenaire l'année dernière.
Oui, c'est ça.
Il y a eu le centenaire de l'Afrique. 1920. C'est 1900.
Oui, donc, il y a deux ans.
Ça fera deux ans. Et c'est quand même une des épaves qui, dans l'histoire de la marine, est la plus remarquable. Mais je laisse Jean-Marc expliquer.
Donc l'Afrique, c'était un navire qui faisait des liaisons entre la France et l'Afrique et qui est parti en janvier 1920 avec des gens qui se rendaient au Sénégal. Donc parmi ces gens, il y avait des tirailleurs sénégalais qui retournaient dans leur pays. Il y avait l'équipage, il y avait des industriels et il y avait également un groupe de missionnaires avec un évêque à bord de ce navire. Et ils sont partis de Bordeaux, tout se passait bien. Et en sortant de l'estuaire de la Gironde, ils ont détecté une petite voie d'eau que le commandant a jugé qui était faible et qu'ils ont continué. Et hélas, il y avait le mauvais temps s'est installé, la tempête. Et un peu l'histoire qui se passe, c'est quand ils étaient dans un port, ces navires qui fonctionnaient au charbon, il y avait des déchets de charbon, ce qu'ils appelaient les escarbilles, qu'ils mettaient sur les côtés pour ensuite les jeter à la mer une fois qu'ils seraient au large. Et ils ont commencé à pomper dans la machine. Et avec le mauvais temps, les escarbilles qui étaient sur le côté ont tombé dans la machine et ont colmaté les aspirations des pompes. Du coup, le niveau d'eau a commencé à monter. C'était le début de la misère qui leur est arrivée, on va dire. Et donc, au bout d'un certain temps, ils ont décidé de faire demi-tour. Mais avec la tempête, ils n'y arrivaient plus parce qu'ils avaient perdu une machine. Ils ont contacté leur compagnie, un deuxième bateau qui est de leur compagnie qui est venu les assister. Et hélas, dans la nuit, la deuxième nuit, la deuxième machine a stoppé et l'électricité. Donc, ils se sont perdus dans la nuit. Et le navire a réussi à passer au-dessus du plateau de Rochebonne sans toucher. Mais hélas, il y avait au large, au nord du plateau de Rochebonne, il y avait un bateau feu au gaz qui était là pour signaler le plateau de Rochebonne. Et en dérivant, ils sont venus percuter ce bateau feu. Donc imaginez au mois de janvier, en pleine nuit, percuter ça en pleine tempête. Les gens ont essayé d'évacuer le navire. De façon, il y en a qui ne voulaient même pas quitter le navire tellement la mer était déchaînée. Et en finale, il n'y a eu que, pour dire les chiffres, il y a eu 35 rescapés et 700 morts. Quoi. C'est énorme.
Voilà, donc,
ils ont joué vraiment de malchance et, oui. et donc cette épave reste une catastrophe de notre histoire que peu de gens connaissent voilà. En finale. Elle est à 48 mètres environ.
Donc, oui, eh ben, tiens, bonne question. Est-ce qu'elle est facile à voir ? Est-ce que, parce qu'il y a des épaves où vous avez du mal à y voir quelque chose parce que tout simplement l'environnement autour est très vaseux, etc. Et pour ce qui est de l'Afrique, c'est comment ?
Alors, l'Afrique, en général, on a des bonnes visibilités. Maintenant, après, c'est jamais une règle hein, parce que c'est arrivé des fois où que la mer est belle, on y va, tout va bien. Et puis, en final, il n'y a que 2-3 mètres de visibilité parce qu'il y a eu de la houle avant. On ne sait pas trop après pourquoi. Des fois, il y a des jours où on a des super visibilités, puis d'autres, beaucoup moins. C'est pas toujours explicable.
Alors, moi, je voudrais vous raconter une petite anecdote que j'ai trouvée dans le livre. Et qui a concerné beaucoup de bateaux à l'époque. Donc, l'Afrique, avant évidemment de couler, pendant la guerre, pour pas être touchée par les Allemands, hein, on lui avait peint sa cheminée en jaune. Drôle d'idée, vous allez peut-être me dire. Pourquoi du jaune ? Eh bien, tout simplement parce que le jaune, c'était la couleur des cheminées de bateaux belges qui transportaient des militaires allemands. Donc voilà. Donc du coup, elle est passée au travers de la guerre, mais pas de bol, parce que du coup, elle est tombée un peu plus tard. Et dans le même ordre d'idées, pour ceux qui connaissent le Mutin, je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu un jour dans le port. Notre magnifique vieux gréement, le bateau école de la Marine nationale, c'était un peu la même histoire. Alors, ce n'était pas une histoire de cheminée, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, il avait été plus ou moins réquisitionné. Enfin, je ne connais pas les accords entre la France et l'Angleterre. Toujours est-il qu'il était côté anglais. Et il avait été maquillé en tonnier, sachant que c'était un dindé à la base. Donc, qui dit dindé, dit déjà une forme de bateau de pêche, évidemment. Et donc, il a fait toute la guerre maquillé en tonnier. Il n'est pas resté en Angleterre, mais il est redescendu après dans le sud. Mais ça lui a permis de passer au travers et d'être toujours là aujourd'hui et toujours aussi beau. Bon, ça, c'était le petit côté historique. On a parlé tout à l'heure d'un DVD. Et ce DVD, il a une histoire. C'est pas juste une épave. C'est pas juste une épave qui est plus jolie que les autres que vous avez décidé de mettre en film. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire, le mystère du X-201 ?
Alors oui, effectivement, c'est un peu moi qui ai lancé ce film, enfin qu'on a voulu, ce que j'ai voulu raconter par le travers de ce DVD, c'était l'histoire qu'on avait vécue parce que c'est l'histoire d'une découverte d'une épave qui était entre guillemets plus ou moins connue, mais qu'on ne connaissait, personne connaissait ni le nom ni pourquoi, enfin bref. L'histoire commence par dans les recherches de fichiers qu'on a d'épaves qu'on récupère avec les marins pêcheurs, qu'on récupère avec le chaume, etc. On arrive des fois à chercher est-ce que ce point-là, c'est une croche, c'est un caillou, c'est une ancre, c'est un bout de ferraille. Et là, en cherchant un jour, on est tombé sur un truc qui ressemblait à une épave et qu'on n'a pas pu plonger ce jour-là, donc on a envoyé une caméra GoPro pour voir si ça ressemblait vraiment à une épave. Donc ça, c'était les premières images que nous avons fait de cette épave. Et effectivement, on a constaté qu'il y avait bien une chaudière, qu'il y avait une coque, etc. Donc il a fallu qu'on attende 2 semaines ensuite, après cette découverte, pour pouvoir plonger dessus. Et là, à notre grand étonnement, on voit une épave, mais en très bon état de conservation, et avec des obus, une chaudière et un treuil. Donc, on s'est dit, mais ça ressemble à un chalutier armé, mais dans l'état qu'il est, ça paraît curieux qu'il soit de la Première Guerre mondiale. Donc, on a continué à replonger dessus, on a trouvé quelques indices, quelques morceaux de verre, un morceau de verre qui venait d'une pharmacie de Bordeaux, on a trouvé une brique de chaudière où c'était marqué Couéron, l'OR inférieur. Et donc, on a continué à chercher comme ça. Et on a mesuré les obus, c'était du 65 mm. 65 mm, quel type de bateau ont coulé avec un canon, un chalutier armé autour de l'île Dieu. Donc on a découvert qu'il y avait un chalutier qui s'appelait le Ben Adler, où on s'est renseigné auprès du musée maritime d'Aberdeen pour avoir les plans. Donc une fois qu'on a eu les plans, on a regardé, ça ressemblait, mais il y avait des différences. Donc c'était pas le Ben Adler. Donc on a continué à chercher. Avec le 65 mm, il y avait le Nalso. Le Nalso, ça ne collait pas parce qu'il y avait déjà une épave qui était répertoriée comme le Nalso au nord de l'île. On s'est dit, ben, ça ne peut pas être le Nalso puisqu'il est déjà connu une autre épave au nord de l'île. Et on a continué à plonger. Et on a plongé aussi sur ce fameux Nalso pour vérifier si ça pouvait être lui ou pas. Et effectivement, en replongeant sur le bateau qui était répertorié le Nalso, on s'est aperçu que ce n'était pas vraiment un chalutier armé. Donc l'hypothèse que ce soit le Nalso est bien revenue à l'ordre du jour. Et on a fini par découvrir le nom du navire sur le transmetteur d'ordre de la machine, ce qui est assez rare. Et donc c'était bien le Nalso. Un bateau d'Arcachon qui aurait coulé sur une mine en escortant un convoi en revenant de Saint-Nazaire. Donc c'est ça qu'on a voulu, j'ai voulu raconter dans le DVD, de tous les tout ce qu'on a vécu, les rebondissements et l'histoire de cette découverte.
Et donc ça s'est passé quand en fait ?
Alors ça, c'était en 2011.
2011.
En 2011, et on a mis 1 ou 2 ans pratiquement, voilà, à découvrir le nom du navire en cherchant un peu partout.
Et l'autre, voilà, c'est la
question. C'est là, on a essayé de replonger dessus, mais on a des petites idées, mais on n'a pas encore la réponse. Mais effectivement, ça nous intrigue. C'est ça, ce qui fait partie un peu de nos plongées, de nos découvertes et de nos buts de plongée, c'est de trouver ce genre de choses, quoi. Quand on arrive à découvrir le nom d'un navire, son histoire, c'est passionnant, quoi.
Et comment on fait pour découvrir une épave ? Alors, il y en a certainement encore à découvrir, mais comment est-ce que... Ben, vous avez celles qui sont répertoriées. Comment vous avez les infos que peut-être il y a une épave à tel endroit ? Parce que j'imagine que vous n'allez pas en mer avec juste le sondeur en train de sonder la mer, sinon il vous faudrait des années et des années. Comment ça se passe ?
Alors, en fin de compte, c'est principalement des marins-pêcheurs qui donnent des positions où ce qu'ils ont croché avec leur filet, ou qu'ils ont remonté un bout de ferraille, ou qu'il y a des choses, des fois un homard qui est couleur rouille. Ça peut être, c'est des indices, oui, parce qu'ils prennent la couleur de l'épave souvent. Et à partir de là, après, ça peut être qu'un caillou ou une ancre qui reste à traîner, qui est accroché dans le filet. Hein. Donc après, mais c'est vrai que ça représente beaucoup de temps de recherche parce que la mer est très grande, il y a énormément de points de croche. Et après, c'est très profond, il faut qu'il fasse beau, il faut qu'on ait le temps, il faut qu'on ait des plongeurs. Imaginez, c'est beaucoup de recherche.
Et justement, c'est la question à laquelle je voulais arriver. Comment se déroule une plongée globalement, comment vous l'organisez, combien de temps, etc. Parce que pour tous les néophytes comme moi qui n'y connaissent absolument rien à la plongée.
Alors, bah, une plongée, ça s'organise, bah, il faut déjà être plusieurs. Il faut au minimum deux plongeurs qualifiés, parce qu'on n'emmène pas des gens à 48 mètres qui n'ont pas les qualifications nécessaires. Donc, une fois qu'il nous faut au minimum 2 personnes et 1 personne pour assurer la sécurité en surface. Ou alors, après, il faut être 4 plongeurs et se relayer, 2 qui plongent et 2 qui restent sur le navire. Donc, Ensuite, eh ben, il nous faut une météo qui soit favorable, parce que souvent on va loin et il faut être quand même en bonne condition physique à l'arrivée, parce que si vous vous faites trop secouer et puis que vous vomissez partout, pour plonger après, c'est... Non, mais vous rigolez, mais on a plongé il y a une dizaine de jours, mais il y en a un, il n'a pas plongé, et il y en a un, c'était limite, parce que la mer était vraiment pas terrible, et ça fait partie de la sécurité aussi de la plongée. Donc, une fois qu'on a un peu déterminé le jour, la météo, le nombre de personnes, il faut vérifier au niveau matériel que, ben, que tous nos blocs et tout fonctionne correctement. Il faut embarquer un bloc de secours. Il faut embarquer du matériel un peu médical en cas de pépin. Il nous faut de l'oxygène en cas de pépin également. Après, il faut prévoir peut-être, selon l'âge, si on part une journée, bah, de quoi manger, de quoi il nous faut de l'essence, enfin, du carburant, prévoir du carburant supplémentaire quand on va très loin. Donc, tout ça pour des fois un quart d'heure, 20 minutes de plongée. Alors après, même ça nous est arrivé bah, d'abandonner sur la route parce que la mer, le vent prenait ou d'autres choses. Donc, c'est pas toujours, on décide de faire une plongée, mais c'est pas toujours une réussite. Où on arrive, des fois, ben, la visibilité, vous voyez, à 50 cm, bon, ben là, c'est pas la peine de rester plus longtemps, on remonte et c'est fini.
Et du coup, combien de temps, tu parles de la plongée qui dure 15-20 minutes, mais en fait, c'est pas, ça dure beaucoup plus longtemps que ça. Parce qu'en réalité, c'est pendant 15-20 minutes, vous tournez peut-être autour de l'épave que vous avez cherchée ou sur laquelle vous vouliez aller. Mais entre le moment où vous êtes en bas et le moment où vous remontez, les paliers, tout ça, comment ça se passe ?
Alors, en général, donc sur les profondeurs, tout dépend de la profondeur. Parce que plus on va profond, moins on peut rester de temps parce qu'on va accumuler de l'azote dans l'organisme. Donc plus on reste longtemps profond, plus on devra faire de paliers. Effectivement, quand on fait une plongée d'environ 15 à 20 minutes sur 48 mètres, on va avoir aux alentours entre 15 et 30 minutes de paliers à l'air. Donc on utilise parfois des mélanges suroxygénés nitrox pour diminuer les temps de paliers. Donc là, après, il faut avoir encore de l'oxygène en plus pour pouvoir gagner du palier. Et ça limite aussi la fatigue en remontée de plongée. Mais effectivement, il faut déjà, quand on arrive sur l'épave, il faut la rechercher au sondeur pour préciser l'endroit où ce qu'on va plonger. Et le temps de la plongée, donc, c'est peut-être 15-20 minutes, mais il y en a pour autant de paliers. Donc si on est à 4 plongeurs, donc les autres, le temps qu'ils vont se mettre à l'eau, qu'ils vont refaire la plongée... Donc c'est minimum une demi-journée, souvent, quand on plonge dans les alentours de 50 mètres, c'est une demi-journée. Quand on va plus loin sur l'Afrique ou sur l'Osmark, c'est la journée complète, pratiquement.
Donc, bon, on voit qu'il faut être beaucoup, il faut être très patient, que ce soit pour plonger ou que ce soit pour rechercher les infos. Et d'ailleurs, en lisant les deux ouvrages, il y a si des fois vous les avez, enfin reprenez-les ou si vous les achetez, on apprend pas mal de choses sur l'île-Dieu et on apprend, il y a même des histoires d'avions, des histoires, quel lien entre un avion à la meule et puis les plongeurs.
Eh bien, c'est en faisant le tome 2 qu'on a redécouvert un petit peu l'histoire du bombardier de la Meule, parce que en recherchant justement des archives, des photos de l'époque, Pascal Collin, qui a écrit le livre, est tombé sur des gens, des passionnés justement de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, et qui lui ont fourni des photos de l'époque, où ce qu'on voit la garnison allemande à l'île-Dieu, où ce qu'on voit, les restes de l'épave de cet avion qui s'est écrasé à la pointe de la Meule, en fin de compte. Et on a un peu redécouvert son histoire, que les gens de l'île-Dieu pensaient que c'était un bombardier qui était parti bombarder Saint-Nazaire, alors que, c'est, en final, c'était un avion qui allait mouiller des mines magnétiques dans l'estuaire de la Gironde. Donc on pense qu'il a fait une mauvaise trajectoire, il a dû passer au-dessus de Saint-Nazaire alors qu'il n'aurait jamais dû. Et il s'est dû se faire tirer dessus par la DCA. Il s'est fait tirer dessus en arrivant à l'île-Dieu. Il était en flammes. Et il a largué ses mines à côté des champs rouillés à Saint-Sauveur. Et il a dû perdre un moteur et un morceau d'aile devant le port de la Meule. Et là, il a perdu le contrôle. Il est venu s'écraser sur la falaise au bout de la Meule. Et on voit les photos de l'époque où ce que les Allemands ont fait exploser les mines magnétiques, où ça fait un cratère de 7-8 mètres de profondeur. On voit les Allemands qui rendent honneur à l'enterrement du cercueil, parce qu'ils étaient sept aviateurs, mais il n'y a eu qu'un seul cercueil. Donc ça, vous imaginez la violence du choc qu'il y a dû y avoir. Et on retrouve encore aujourd'hui des morceaux sur la falaise incrustés et quelques morceaux à marée basse, en partie basse, au bout de la pointe.
Bon, vous voyez qu'il y a plein de trésors autour de l'Île-Dieu. Hein. Il n'y a pas que sur l'île. Hein. On le savait sur l'île, mais il y en a plein autour de l'Île-Dieu. Donc, bon, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser la place à ceux qui ont des questions. Si vous avez des questions.
Est-ce que vous utilisez pour la sécurité, parfois, le caisson hyperbare pour faire les paliers ?
Alors non, on n'a pas de caisson hyperbare avec nous parce que c'est beaucoup trop gros. Alors, les caissons hyperbares, ça est arrivé qu'on a eu un incident de plongée et qu'effectivement, il y a des plongeurs qui ont été au caisson à Angers pour être recomprimés, pour refaire une décompression.
Mais vous ne travaillez jamais avec de l'héliox, enfin des mélanges ?
Alors, des mélanges, on est avec de l'hélium. Alors, quand on a plongé sur les plongées à 70-80 mètres, on plonge au trimix. C'est un mélange hélium, azote, oxygène. Donc ça, c'est après, il faut avoir les gaz, faire les mélanges et analyser tout ça pour que là, ça devient compliqué parce que c'est très lourd comme plongée. Parce qu'il faut avoir un mélange, qu'on a un mélange donc trimix principal. Ensuite, on va avoir un mélange nitrox à 35-40% pour faire un début de la remontée de la plongée et un autre mélange encore plus suroxygéné pour faire les derniers paliers. Donc ça représente trois mélanges différents au cours de la plongée.
C'est presque de la professionnelle.
Oui, c'est vrai que ça devient très compliqué.
Alors, parmi toutes les épaves, la plus célèbre, c'est celle de ce fameux bâtiment de la guerre 14-18, où il y a aux vieilles un monument aux morts. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît ?
Alors, vous parlez du Sequana, bien sûr. Donc effectivement, c'est une épave sur laquelle on a beaucoup plongé parce que c'était une épave qui était proche de l'île. Jadis, on avait très peu de moyens pour plonger. On n'appelait pas les moyens qu'on avait aujourd'hui pour aller au large. Et effectivement, c'est un navire qui transportait des tirailleurs sénégalais. Donc on a effectivement fait une plaque commémorative aux vieilles et la mairie a fait le monument pour commémorer ce naufrage. Et c'est une épave qui, aujourd'hui, il reste un petit bout de l'arrière, les chaudières, et un petit bout de l'avant. Elle est un peu moins impressionnante que l'Afrique, mais c'est à peu près la même profondeur. Et c'est une épave qu'on visite régulièrement, parce qu'elle est, comme elle n'est pas très loin, et on connaît bien l'histoire.
Vous êtes combien de plongeurs sur l'île ?
Alors,
dans votre association ?
Dans notre association, on est une quinzaine, mais effectivement, on commence à vieillir, il y en a de moins en moins qui plongent. Et c'est bien là la difficulté, c'est de trouver des gens disponibles avec les compétences pour pouvoir organiser des plongées quand la météo le permet et qu'on a le temps de pouvoir le faire. Mais effectivement, des vrais en plongeurs, on est 7-8 vraiment en plongeurs aujourd'hui.
Si vous remontez des objets, les autorités maritimes interviennent immédiatement, vous devez les déclarer. Quel est le processus ?
Alors, normalement, on n'a pas le droit de remonter d'objets. Donc, ça c'est la première chose. Jadis, on pouvait remonter des objets, les déclarer dans les 48 heures. Mais là, à part remonter des photos, des vidéos et des souvenirs dans la tête, c'est tout ce qu'on a le droit de remonter. Alors, il y a eu quelques objets de remontée jadis, mais ce qui ont été déclarés et répertoriés par le DRASM, la Direction de Recherche Archéologique Sous-Marine.
Vous nous parlez de la grande difficulté à plonger, des moyens techniques dont vous avez besoin en fonction de la profondeur ou de l'éloignement, du peu de renouvellement de votre équipe de plongeurs. Il me semble qu'il y a une possibilité pour les enfants de l'Île-Dieu de s'initier à la plongée. Est-ce que vous avez la possibilité de témoigner auprès des jeunes de cette grande passion que peuvent avoir les épaves autour de leur île, et quels sont les moyens financiers que vous avez pour réaliser une plongée? Il semblerait que ça demande beaucoup d'argent.
Alors, il y a plusieurs sujets là, ce que vous dites, parce qu'il y a la formation des jeunes, que nous, on n'assure pas la formation, on n'est pas une école de plongée, parce que on n'a pas les moyens ni la vocation, à vrai dire, de former. Par contre, il y a un organisme à la Meule, la Subévasion, qui forme les plongeurs, qui leur donne des diplômes et qui forme d'ailleurs des jeunes de l'île. Il y a tout un, au collège, où il y a une section plongée qui est assez unique en France d'ailleurs, je crois bien, et qui forme des jeunes plongeurs de l'Île-Dieu. Et on est prêt à accueillir ces gens quand ils seront formés, parce que nous, il faut qu'on ne prendra pas de plongeurs qui sont en dessous de ce qu'on appelle le niveau 3, qui sont aptitudes à plonger à 40 mètres entre guillemets en autonome avec quelqu'un d'autre. C'est le minimum qu'on requiert pour pouvoir faire les plongées profondes. Après, on fait quelques plongées moins profondes on peut en mettre des gens un peu moins qualifiés, mais en général sur ce genre de choses. Alors après, on vous parlait de moyens financiers. Moyens financiers, alors je vous dirais qu'aujourd'hui on est tous propriétaires de nos matériels, de nos combinaisons, de notre matériel, de nos bouteilles de plongée, etc. Par contre, avant, on fonctionnait avec un compresseur d'air de Sébastien Semelin, qui était au Sabia, qui aujourd'hui a arrêté son activité. Donc on a un peu un problème de gonflage aujourd'hui des bouteilles, parce que bon, certains ont des compresseurs, certains ont des bateaux. Donc on essaye de mutualiser les moyens de chacun et de partager les frais de carburant entre nous pour pouvoir organiser nos plongées. Mais effectivement, on n'est pas... C'est nous qui finançons principalement notre activité.
C'était juste pour savoir combien de plongées vous faites par an, à peu près.
Alors, c'est bien difficile à dire, parce que ça dépend des années, selon la météo, selon... Mais on n'en fait pas énormément. Hein. Si on en fait 20 dans l'année, c'est bien un maximum. Et souvent, c'est plutôt une dizaine. Après... Et donc, on parlait de subventions. Alors donc, là, l'association était un petit peu en sommeil depuis quelques temps. Là, on est en train de relancer un peu les choses. Et je pense qu'on va redemander une subvention à la commune, parce qu'on a participé effectivement avec eux pour pouvoir mettre la table d'orientation, les plaques. On a même fait, pendant 2 ans, au château de Noirmoutier, on a fait participer à une exposition où on avait exposé nos photos et puis du matériel de plongée au château de Noirmoutier.
Pouvez-vous nous parler du naufrage de Limer, le Norvégien là ?
Alors, je vous en...
Est-ce
je vous...
que c'est autour de l'île Dieu ?
C'est autour de l'île Dieu, mais très large et très profond. Donc, on sait même pas exactement où elle a coulé. Et de toute façon, vu la distance qu'elle est, elle serait trop profonde pour plonger pour nous avec nos moyens techniques. Mais elle est probablement à très large et très profonde.
Oui, vous avez parlé de la difficulté de voir un petit peu sous l'eau. Est-ce qu'on a une idée de pourquoi la mer est tellement opaque dans ces régions ? Moi, j'ai plongé dans les Antilles, on voit à 30 mètres, 40 mètres sans problème. Et est-ce qu'il y a des conditions, je ne sais pas, de météo ou de marée spéciales qui font que la visibilité est un peu meilleure ? Est-ce que vous êtes alerté quand les conditions sont meilleures pour qu'on puisse voir ?
Oui, effectivement, c'est une très bonne question que vous posez là, parce que, en fin de compte, nous aussi, on essaye de comprendre les phénomènes météo, le pourquoi il y a des fois on a une bonne visibilité et des fois pas du tout. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Effectivement, il y a les courants, la houle, l'endroit où se trouve l'épave. Il y a des épaves. En général, moins elles sont profondes, moins il y a de visibilité. Plus on se rapproche du continent, moins on a de chances d'avoir de visibilité. Souvent, c'est une règle qui arrive. Bon, quand il y a du courant, c'est pas forcément le mieux. Quand on évite de plonger quand c'est des grandes marées, quand on peut. Et il y a des phénomènes aussi qui sont aperçus que au mois de septembre, du côté de Saint-Nazaire, on avait des très bonnes visibilités. Parce qu'on pense que, comme il n'y a pas plu depuis longtemps, la Loire déverse moins de sédiments et on a des meilleures visibilités. On a vu sur le chalutier inconnu, fin septembre, il y a quelques années, être à 55 mètres et voir le soleil dans les vagues en surface. Bon, c'est exceptionnel, mais ça peut arriver d'avoir des très bonnes visibilités. Tandis que quand on plonge sur le Marseille, qui se trouve un peu au large des Corbeaux, c'est rare d'avoir des bonnes visibilités. C'est vraiment, on ne comprend pas, parce que la mer est calme, il n'y a pas eu de houle. Et on arrive et il y a 50 cm de visibilité. Et puis une autre fois, il y a du courant, mais on va avoir une dizaine de mètres. On ne sait pas pourquoi. C'est toujours difficile à dire.
Je suppose que le fond de la mer évolue et que d'une plongée à l'autre, vous découvrez d'autres aspects des épaves.
Alors, les épaves se détériorent surtout. y a des épaves qui, bon, selon la, la structure, selon l'endroit où elles sont, elles vont se détériorer plus ou moins rapidement. Il y a un chalutier qui a été coulé au plan Mélique dans les années 90, qui s'appelle le Renéga, sur lequel on a plongé il y a une dizaine d'années, et qui était, on voyait encore la peinture du navire, on voyait plein de choses, toute la passerelle était intacte, et on a replongé 4-5 ans après, et il ne reste plus de passerelle, il n'y a plus de peinture, les bordées commencent à se détériorer de tous les côtés, et on sait que dans 10-20 ans, il aura totalement disparu, parce qu'il se détériore à une grande vitesse. Et à contrario, par exemple, le Nalso, qui a été coulé Première Guerre mondiale, lui, il est pratiquement intact, malgré qu'on a constaté que on a quelqu'un dans l'association qui a fait une modélisation 3D de l'épave, et au fur et à mesure des photos, des images qu'on lui a ramenées, il a constaté que le treuil s'affaissait. Le poids du treuil s'affaissait. Donc on peut suivre l'évolution de l'épave de par nos photos, nos vidéos. C'est un peu ça qu'on voudrait sauvegarder aussi. C'est par l'intermédiaire de tout ça que ça ne disparaisse pas complètement.
Sur l'île de Sein, il y a un musée des naufrages qui est très émouvant, avec des objets qui sont remontés et des cartes des bateaux qui ont coulé au large de Sein. Est-ce qu'éventuellement, ça serait envisageable ici? Et comment ont-ils pu remonter tous ces objets qui font partie du musée, puisque vous nous avez expliqué qu'on n'avait pas le droit de les remonter?
Alors, jadis, comme je disais, jadis, c'était plus ou moins... on pouvait faire des déclarations d'objets, après, c'était reconnu. Après, l'État a décidé ou non de les récupérer ou pas. Aujourd'hui, faire un musée, je ne sais pas qu'est-ce que la mairie peut imaginer ou veut faire par la suite, mais on n'a pas très peu d'objets en final. Et par contre, il a été remonté des petits canons, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, en bronze, que le drasme qui les a récupérés, et ils ont été traités, ils vont revenir sur l'île Dieu et ils seront exposés. Je crois à la nouvelle médiathèque, si j'ai bien suivi.
Bonjour. Quels sont les dangers spécifiques à la plongée dans une épave? Et deuxième question, qui sont aujourd'hui les personnes habilitées à remonter les objets? Est-ce qu'il faut avoir une mission avec le drasme?
Oui. Alors donc, les dangers, donc il y en a beaucoup en finale. Quand on plonge, il y a le danger de la noyade, il y a le danger de l'accident de décompression, il y a le danger d'avoir un malaise au fond de l'eau. Effectivement, physiologiquement et physiquement, on peut se blesser aussi sur les tôles, parce que souvent les tôles sont très coupantes. Donc au niveau des dangers, il y en a quand même une certaine quantité. Et au niveau donc, des objets, comme on disait, si vous trouvez quelque chose, oui, il faut le signaler au drasme, mais on n'a absolument pas l'autorisation de le remonter. Et après, c'est le drasme qui peut décider de le remonter et de savoir ce qu'ils vont en faire.
Merci à Viviane de nous accompagner dans cette plongée, dans cette histoire. Moi, j'étais déjà passionnée depuis des années par vos ouvrages. Merci, ils sont vraiment formidables. Je voudrais rebondir sur la question de madame. Vous avez parlé de modélisation 3D des épaves. On sent qu'on va vers un patrimoine immatériel entre Noirmoutier et l'île-Dieu. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait une sorte de musée immatériel, de centre de recherche qui montrerait les modélisations 3D de ces épaves? Et il y aurait du boulot, parce qu'il y en a une trentaine. Et qu'on pourrait peut-être tous, le crowdfunding, comme on dit en bon anglais maintenant, c'est-à-dire l'aide à contribution volontaire, imaginer un projet commun pour faire en sorte qu'il y ait un prolongement, que ce soit culturellement possible de pouvoir enseigner à nos enfants et à ceux qui ne sont pas plongeurs, parce que moi, je peux pas, j'ai peur.
Oui, non, mais je comprends bien. Effectivement, la modélisation 3D, ça permet de garder un souvenir de quelque chose qui évolue. La preuve, c'est qu'on s'aperçoit que le treuil a déjà bougé, que ce qu'on prendrait comme image aujourd'hui, demain, ça sera plus ça, effectivement. Donc mais ça représente un travail effectivement énorme, parce que bon, déjà, il faudrait pouvoir avoir des bonnes conditions pour filmer chaque épave. Donc c'est déjà, certaines sont déjà, il ne reste plus qu'une chaudière et puis quelques bouts de tôle. Donc déjà, c'est déjà un peu tard pour certaines épaves. Mais effectivement, la modélisation 3D, vous regarderez sur la pancarte qui se trouve à la pointe du but, qui représente le Tenadores, qui se trouve au bord de la côte. Et on voit un hublot, et c'est, on pourrait croire que c'est un hublot de l'épave, en fin de compte, c'est une modélisation 3D. Tellement c'est bien fait, on pourrait croire que c'est un vrai hublot qui a été remonté, mais non, c'est une modélisation 3D d'un hublot.
Bien, si vous avez pu, si vous n'avez plus de questions, eh ben écoutez, moi je souhaiterais remercier Jean-Marc qui nous a fait quand même voyager effectivement au fond de l'eau, dans l'histoire. C'est un beau voyage. Et vous remerciez vous d'être venu, d'avoir suivi. Il y a quelques fidèles qui sont venus pratiquement, je pense, à toutes les rencontres. Donc c'est très sympa. Ça nous fait plaisir.
Voilà, ben merci beaucoup Jean-Marc Cadou et merci Viviane pour cette animation. C'est notre dernière rencontre estivale. Heureusement, le temps a été avec nous, donc on termine en profondeur et en beauté ce cycle. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu participer donc à toutes les rencontres, je vous rappelle qu'elles sont disponibles en podcast. Vous allez sur Internet, sur le site de Neptune FM, et il y a une rubrique podcast, et là vous voyez un lieu, une rencontre, et depuis qu'on commence à les enregistrer, c'est la troisième année je crois, donc tous ces podcasts sont disponibles.